France Info.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce sera la grande question sociale des 25 prochaines années. Selon Bruno Le Maire, nous parlons salaire ce soir avec notre invité. Bonsoir Philippe Askenazy.
Bonsoir.
Économiste du travail et de l'innovation, directeur de recherche au CNRS et membre du Haut Conseil des rémunérations. Et ça, on va en parler tout à l'heure. L'inflation est à 1,8% en août sur un an. Pas de revalorisation automatique du SMIC en octobre. Une telle revalorisation, d'ailleurs, apparaît très incertaine d'ici la fin de l'année, écrit l'INSEE. Ça, c'est si c'est automatique. Le gouvernement lui peut toujours donner un coup de pouce. Devrait-il le faire, selon vous ?
Alors effectivement, même si c'est pas exactement cet indicateur sur lequel est basé le critère pour augmenter le salaire minimum, il n'y aura probablement pas d'augmentation automatique d'ici le 1er janvier. Et donc, il y a toujours une possibilité de faire un coup de pouce au SMIC. Alors, je dirais que, pour le moins, le gouvernement va devoir revoir rapidement et assez substantiellement le schéma actuel des exonérations de cotisations sociales employeurs. Alors, je vais m'expliquer. On est dans une situation singulière chez nos voisins, notamment européens. Lorsqu'il y a une augmentation du salaire minimum, eh bien, ça se traduit notamment par plus de cotisations sociales. Donc, on remplit les caisses de l'État. En France, comme les exonérations de cotisations sociales sont liées, indexées sur le salaire minimum, lorsqu'on augmente le SMIC, au contraire, l'effet direct, c'est de creuser le déficit public. Donc il y a une sorte de piège budgétaire dans lequel sont tout gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite. Or, il se trouve en face, ces gouvernements, aujourd'hui, à une très forte demande sociale pour une augmentation, une revalorisation salariale. Et il y a peu d'outils. Hein. On peut indexer les salaires, mais ça, je pense pas que ce gouvernement fera ça. Ou on peut jouer notamment sur le salaire minimum. Donc ça, c'est un paramètre très franco-français. Et puis surtout, il y a notre environnement européen qui va changer de manière spectaculaire dans les deux années qui viennent, à la sortie de la crise Covid. Nos partenaires européens se sont accordés sur le fait que cette course vers le bas, le moins-disant social avait été délétère pour l'économie européenne. Et donc, il y a eu une directive en 2022, salaire minimum, qui va se traduire, par exemple, donc le ministre allemand du Travail a annoncé que du fait de cette directive, le salaire minimum allemand allait augmenter de l'ordre de 20% d'ici 2026, qui va le mettre à 15 euros de l'heure. Si on avait un tel niveau en France, ça correspondrait à 1800 euros net pour un salarié à 35 heures par mois. Et donc, vous voyez, lorsqu'on dit que c'est irréaliste, les 1600 euros du nouveau Front populaire, et qu'on va avoir 1800 en Allemagne, 1700 en Belgique, par exemple, eh bien, ça va être intenable pour un gouvernement, le statu quo tel que l'on a aujourd'hui. Donc je pense qu'il va à la fois devoir modifier les systèmes d'exonération et devoir aussi augmenter le salaire minimum en France.
Il y avait une réflexion effectivement qui était lancée par le précédent gouvernement sur la question des exonérations. Selon les derniers chiffres de la DARES, le ministère du Travail, les salaires en France progressent plus vite que l'inflation. Concrètement, pour nos auditeurs qui vous écoutent, est-ce que ça veut dire que ça va aller mieux, que ça va mieux pour notre pouvoir d'achat ?
Alors, le pouvoir d'achat des salariés du privé, alors c'est pas le cas pour le public, il n'y a pas de progression pour le public. Oui, ça s'améliore. Alors, c'est essentiellement la chute des prix de l'énergie qui permet de favoriser ce pouvoir d'achat. Mais il faut bien voir qu'en tout cas, dans les anticipations qu'il y a, les prévisions actuelles de l'INSEE, cette amélioration ne comblera que 1/5 des pertes de pouvoir d'achat en 2022 et 2023. Donc, on est encore loin du compte. Et c'est pour cela, à nouveau, qu'il y a cette pression à une augmentation salariale aujourd'hui.
Il y a une autre question qu'on pose souvent, c'est la question d'un recul de la productivité française. Est-ce que c'est un problème et quelles sont les solutions ? Et alors, j'ai conscience qu'on n'a pas 4 heures.
Oui, tout à fait. Alors, c'est très... Alors déjà, on a quand même un petit peu changé le scénario. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un vrai décrochage de la France par rapport à nos voisins européens. On est plutôt dans une situation où on connaît, depuis la crise Covid, une forme de stagnation sur l'ensemble de l'Europe, y compris en France. Donc, c'est moins noir pour la situation française. Mais c'est vraiment une situation Europe versus États-Unis. Et c'est bien pour cela. Donc, justement, l'Europe cherche de nouveau, de renouveler sa politique pour monter en gamme l'économie européenne et regagner en termes de compétitivité et de productivité.
J'ai une question parce qu'on l'a mentionné au début, vous êtes membre du Haut Conseil des rémunérations installé par la future ex-ministre du Travail, Catherine Vautrin. En tout cas, elle est dans le gouvernement sortant. Est-ce qu'il poursuit ses travaux ?
Alors, pour l'instant, ils sont suspendus depuis depuis la dissolution. C'est un petit peu en quelque sorte normal dans le schéma politique. Je rassure les auditeurs, nous sommes non rémunérés, donc ça ne nous coûte rien à l'État, cet élément de suspension. Bon, je dirais que par ailleurs, quand même, les travaux se poursuivent sur cette idée globale de dismicardisation de l'économie française. Il y avait deux grands axes, celui justement de cette architecture des exonérations de cotisations sociales en France, si elles freineraient les progressions salariales, et aussi la problématique des temps partiels, puisque aussi une part importante de la pauvreté laborieuse, ce sont des femmes il y a aussi des hommes, mais essentiellement des femmes qui sont à temps partiel et un temps partiel subi. Donc ces deux grands chantiers, d'une certaine manière, se poursuivent, et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si le gouvernement Barnier va continuer à se saisir de cet organe. Je pense que oui, dans le sens que c'est essentiellement, moi je suis une personnalité qualifiée, mais il est composé essentiellement des partenaires sociaux, côté patronal comme syndical, et dans une volonté de dialogue, c'était typiquement comme cela qu'était conçu ce Haut Conseil, c'était cette manière-là que les partenaires sociaux le voyaient.
Si on se résume, la question primordiale que va devoir se poser le nouveau gouvernement sur le travail, quelle est-elle selon vous ?
Alors, elles sont quand même multiples. Il y a effectivement une problématique de rémunération. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier la question du travail elle-même. C'est-à-dire que très souvent, on se ramène à des questions de salaire, des questions de budget, des chiffres. Alors même que, voyez bien, typiquement, lors de la réforme des retraites, il y a eu toutes sortes de questions sur le travail, sur sa soutenabilité. Et aujourd'hui, il y a des interrogations. Vous parliez de Bruno Le Maire. Il y a eu multiples interrogations sur les arrêts de travail pour dénoncer la chose, en quelque sorte. Mais tout cela est au départ une problématique travail, de santé publique, de conditions de travail, de vieillissement de la population et au jour le jour dans les entreprises, comment gérer des absences imprévues. Et c'est justement en se posant aussi ces questions de travail qu'on trouve des solutions et qui permettront de faire des économies pour les finances publiques.
Donc tout est lié. Merci beaucoup Philippe Askenazy, économiste du travail et de l'innovation. Vous étiez l'invité Écho de France Info.